Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez les cœurs de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation. Le même Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, eh bien, chers amis, nous en sommes au chapitre 9 de l'Évangile selon Saint Marc. Nous avons commencé le chapitre 9 et dans le polycopié, qui couvre les chapitres 6 à 10 de Saint-Marc. Nous en sommes en haut de la page 20. Donc Saint-Marc explique le miracle de la transfiguration. Jésus qui est transfiguré devant trois de ses apôtres, Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean, ses vêtements qui deviennent resplendissants, tout à fait blancs comme de la neige, tel qu'aucun foulon sur la terre n'en peut faire d'aussi blanc. Et Saint-Pierre qui dit à notre Seigneur, « Il est bon pour nous d'être ici. Faisons trois tentes, une pour vous, une pour Moïse, une pour Élie. » Notre Seigneur va, par cette théophanie, manifester publiquement sa divinité, au moins une toute petite partie de sa divinité. Alors nous en sommes en haut de la page 20 sur le polycopié. Voyons un petit peu ce que disent les pères, puisque je n'ai pas terminé les explications qu'ils donnent au dernier cours. Donc Saint Bède le Vénérable explique que les vêtements du Seigneur, ce sont les saints qui au ciel brillent d'un éclat tout nouveau. Le foulon, c'est-à-dire celui à qui le psalmiste adresse cette prière, « Lavez-moi de plus en plus de mon iniquité et purifiez-moi de mes péchés, car Dieu ne peut donner à ses fidèles sur la terre l'éclat qu'il leur réserve au ciel. » Donc ici, notre Seigneur Jésus-Christ essaye de nous faire passer la barrière, si vous voulez. On ne peut pas comprendre ici-bas la joie du ciel, c'est impossible. Tous ceux qui les saints, il y en a pas mal, qui ont vu une partie de cette vision extraordinaire du ciel, du paradis, ils sont incapables de l'expliquer. Ils ne peuvent pas expliquer ce qu'ils ont vu. Ils disent que les mots dans leur langue ne peuvent pas traduire la beauté extraordinaire qui doit être au ciel. Imaginez le plus beau des paysages qui se puissent rencontrer sur la terre, multiplier ça par des milliards et des milliards de fois, vous aurez une petite idée de la beauté du paradis. Donc il faut méditer là-dessus, et c'est pour ça que on voit très bien les apôtres sont complètement paniqués. Ils ne savaient plus ce qu'ils disaient, l'effroi les ayant saisis, nous dit le texte sacré. Dans d'autres textes parallèles, il est dit qu'ils tombent la face contre terre, complètement épouvantés de voir cette divinité, notre Seigneur Jésus-Christ. Pour eux, voir la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est mourir, parce que c'est comme si on se rapprochait tellement de la lumière du soleil, et bien qu'on va vite en être complètement aveuglé. Mais en même temps, cette vision de la théophanie, de la transfiguration, doit être pour nous une source d'une joie indicible, parce que nous savons très bien que nous sommes des êtres d'éternité. Nous passons sur la terre de façon fugace. Nous sommes ici-bas sur la terre des viateurs, c'est-à-dire des pèlerins. Notre patrie, c'est le ciel. Nous sommes faits pour le ciel. Et chaque jour qui passe nous rapproche de notre mort, et indirectement, chaque jour qui passe, si nous avons la joie d'être en état de grâce au moment de notre mort, chaque jour qui passe ici-bas sur la terre va nous rapprocher
de la vision béatifique que nous aurons au ciel d'une certaine façon, voir notre Seigneur Jésus-Christ au moins en partie, voir sa divinité. On ne pourra pas évidemment contempler la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ de façon parfaite, seul Dieu peut faire ça, mais on aura déjà, on sera dans un monde complètement différent du nôtre. C'est pour ça que c'est en soi un mystère. Donc Saint Rémy explique que le foulon, c'est le verset 2, ses vêtements devinrent resplendissants, tout à fait blancs comme la neige, tel qu'aucun foulon sur la terre n'en peut faire d'aussi blanc. Donc ce foulon, si vous voulez, c'était un instrument qui était utilisé pour blanchir le linge, pour laver le linge par les mères de famille de l'époque de notre Seigneur. Par le foulon, nous pouvons entendre les saints prédicateurs et ceux qui purifient les âmes sur terre. C'est-à-dire de même que le foulon va purifier la saleté des vêtements, de la même façon, la prédication des saints prédicateurs va purifier les âmes sur la terre. Aucun d'eux ne peut vivre si saintement que la pureté de son âme ne soit ternie par quelque tâche. Mais après la résurrection, ils seront purifiés de toutes les souillures du péché. La grâce de Dieu les revêtira d'une sainteté que ni les rigueurs de l'impénitence, ni les exemples, ni l'enseignement des prédicateurs ne pourraient leur donner. On a un petit peu une idée de ce que seront les corps glorieux au ciel par le comportement de notre Seigneur Jésus-Christ après sa résurrection. On voit qu'il peut passer à travers les murs, et lorsqu'il passe à travers les murs, il arrive au milieu des apôtres sans que ceux-ci puissent comprendre comment il est rentré dans la pièce. Grâce à son don d'agilité, eh bien, il passe à travers les murs, il y a un rayonnement, grâce au don de luminosité, si vous voulez, une espèce de lumière extraordinaire qui sort du corps glorieux et qui aide à comprendre ce que va être, la joie du paradis. Saint Jean Chrysostome, lui, dit que les vêtements blancs sont les écrits des évangélistes et des apôtres. Écrit plus lumineux que tous les écrits des hommes, dont les interprètes ne pourront jamais atteindre la clarté. Nous pouvons désigner sous le nom de foulon sur la terre les sages de ce monde qui embellissent de l'éclat de leur génie, leurs honteuses inventions, leurs dogmes menteurs, mais jamais les ressources de leur art ne pourront réaliser une œuvre égale à la parole qui enseigne aux ignorants la splendeur des pensées divines renfermées dans les écritures qui sont méprisées pourtant d'un si grand nombre. Donc la technique moderne est... Donc reprenons après cette interruption du téléphone, excusez-moi. Donc je reprends cette phrase de Saint Jean Chrysostome. Donc il précise que ces vêtements blancs ne représentent pas simplement la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, la lumière de la grâce, mais aussi les écrits des évangélistes et des apôtres. Pourquoi ? Parce qu'il y a une lumière dans ces écrits et qui dépasse tout ce que l'homme peut écrire. On dit que la plus belle œuvre écrite par les hommes, c'est le livre de l'imitation de Jésus-Christ par Thomas à Kempis. Pourquoi ? Parce que la beauté, la dignité, la clarté, si vous voulez, des évangiles est bien au-dessus, parce que l'auteur des évangiles, l'auteur des livres sacrés, c'est le Saint-Esprit lui-même. Nous pouvons désigner aussi sous le nom de foulon, dit Saint Jean Chrysostome, les sages sur la terre, les sages de ce monde qui embellissent de l'éclat de leur génie, leur honteuse invention, leur dogme menteur. Bon, j'ai déjà expliqué ça. Alors, voyons un petit peu maintenant l'explication donnée par les pères de l'Église sur la présence de Moïse et d'Élie. Donc, si vous voulez, il y a ici les pères vont parler de deux choses. D'une part, de la véritable lumière donnée par l'Écriture sainte, donnée par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui apparaît pendant la transfiguration, et la fausse lumière des sages de ce monde. C'est pour ça qu'il parle des dogmes menteurs des sages de ce monde. Mais la lumière des sages de ce monde est en fait une obscurité, parce que c'est une lumière qui aveugle pour le mal, alors que la véritable lumière de l'Écriture sainte, de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, est une lumière qui illumine l'âme, qui purifie l'âme et qui la monte vers le ciel. Alors, les deux grands hommes de Dieu qui apparaissent à côté de notre Seigneur Jésus-Christ sont Moïse et Élie. Donc Moïse est le législateur et Élie c'est le prophète, dont l'un a subi la mort et l'autre a été transformé tout vivant dans le ciel. Donc c'est un peu un mystère, on ne sait pas très bien où sont Enoch et Élie. Ils sont montés au ciel dans un char de feu. Et vraisemblablement, ils ne sont pas morts. Donc c'est un lieu spécial sur lequel l'Église ignore tout. On ne sait pas exactement où ils sont. Ils reviendraient à la fin des temps pour organiser la lutte contre l'Antéchrist. Donc c'est le symbole ici de la gloire future de tous les saints. C'est pour montrer cette gloire que notre Seigneur Jésus-Christ a tenu à apparaître entre Moïse et Élie, pour bien montrer la continuation qui existe depuis la législation de Moïse, les prophéties d'Élie qui annoncent notre Seigneur Jésus-Christ qui va donc apparaître entre ces deux grands saints. Leur présence signifie que dans la gloire céleste, nous verrons la loi et les prophètes s'entretenant avec Jésus-Christ, c'est-à-dire nous contemplerons la conformité des événements avec les prédictions inspirées par Jésus-Christ à Moïse et aux autres prophètes. Et nous entendrons la voix du Père qui nous fera connaître son Fils en nous disant « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances. » En même temps, une nuée lumineuse, c'est-à-dire l'Esprit Saint, source de toute sagesse, nous couvrira de son ombre. Donc on a vu un petit peu la même théophanie aussi au moment du baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste. Donc les pères font aussi remarquer que cette théophanie manifeste également la Sainte Trinité. Donc les trois personnes de la Sainte Trinité, le Père qui parle du ciel, le Fils qui est transfiguré devant Saint Pierre, Saint Jacques et Saint Jean, et le Saint-Esprit. Dans un autre texte, il est parlé d'une colombe qui voltait au-dessus de la tête de notre Seigneur Jésus-Christ, qui symbolise le Saint-Esprit. Il est à remarquer que le mystère de la Sainte Trinité, qui avait d'abord été révélé au baptême de notre Seigneur dans le Jourdain, je viens de vous le dire, est ici proclamé de nouveau dans sa glorification sur le Tabor, dans la transfiguration. Dieu nous apprend ainsi que nous verrons et que nous louerons après la résurrection la gloire que nous professons par la foi dans le baptême. Donc, notre Seigneur va expliquer en image quelque chose qui ne peut pas être compris ici-bas sur la terre. Donc, c'est cette gloire, cette lumière, cette blancheur extraordinaire de la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous voulez, prépare, annonce une gloire, une dignité bien plus grande au ciel, mais que nous ne pouvons pas comprendre ici-bas. Donc, l'imparfait d'ici-bas annonce le parfait d'après la mort du paradis. Donc, ce n'est pas sans raison, disent les pères, que l'Esprit Saint, qui avait d'abord apparu sous la forme d'une colombe, manifeste ici sa présence dans une nuit éclatante, parce qu'il veut nous enseigner dans quelle éclatante lumière nous contemplerons l'objet de notre foi, si nous avons finalement pratiqué ces enseignements dans la simplicité de notre cœur. Donc cette lumière éclatante, cette blancheur éclatante, représente aussi tout simplement la vertu de charité. Ce n'est pas simplement la Sainte Trinité qui est manifestée, la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est aussi la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ qui existe dans une âme qui n'est pas simplement à l'image, à la ressemblance de Dieu par l'existence en elle d'une âme, mais avec cette ressemblance, l'image de Dieu. L'image et la ressemblance, c'est quelqu'un qui vit en état de grâce. Il y a d'abord l'âme, substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté, mais il y a aussi l'état de grâce qui se surajoute en quelque sorte à l'âme, qui est la vertu de charité. La vertu de charité, puisque l'état de grâce, rien d'autre que l'habitation en nous de la Sainte Trinité. Et donc cette lumière et cette blancheur symbolisent aussi, nous disent les pères, l'âme en état de grâce. Pourquoi ? Parce que l'âme en état de grâce a déjà en elle un petit bout de paradis. Un peu, l'Esprit Saint, si vous voulez, l'état de grâce est un gage du paradis. On commence déjà à vivre au paradis si on est en état de grâce. De même, malheureusement, qu'on peut dire qu'on commence déjà à vivre un peu en enfer si on est en état de péché mortel. Autant une âme qui vit dans le péché mortel et dans l'obscurité, la noirceur la plus complète, de la même façon, une âme qui vit en état de grâce a déjà le paradis en elle parce qu'elle a cette luminosité extraordinaire, cette blancheur extraordinaire qui symbolise justement la joie du paradis. Donc pendant que la voix du Père Céleste se faisait entendre sur son fils, ses disciples ne voient plus que Jésus seul parce qu'en effet, lorsque Jésus se sera manifesté à ses élus, Dieu sera tout en tous, comme le disait saint Paul. De même que le Fils ne fait qu'un avec le corps, Jésus-Christ brillera éternellement en tout et ne fera plus qu'un avec ses saints. C'est-à-dire que quand nous serons au ciel, nous serons en quelque sorte en osmose directement avec la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne serons pas simplement illuminés par la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons dans cette lumière. C'est là encore une fois un grand mystère qui est plus ou moins incompréhensible pour nous ici-bas. Mais c'est un passage important, cette transfiguration. Il faut méditer la transfiguration pour pouvoir comprendre indirectement ce qu'est le paradis. On voit très bien d'ailleurs que les apôtres n'ont pas pu comprendre ici-bas ce qui se passait, parce qu'il y a une partie mystérieuse dans la transfiguration. Ils ne savaient pas ce qu'ils disaient, l'effroi ne les ayant saisis. Alors nous avançons dans le chapitre 9 de saint Marc, versets 9 à 13, en bas de la page 20. Vous trouvez deux petits paragraphes des pères sur ces explications, sur ces passages-là. Ils tinrent cette parole secrète en eux-mêmes, se demandant entre eux ce que signifiait jusqu'à ce qu'il fût ressuscité d'entre les morts. Et ils l'interrogeaient en disant, « Pourquoi donc les pharisiens et les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne d'abord ?» Et Jésus leur répondit, « Élie, lorsqu'il viendra d'abord, établira toutes choses, comme il est écrit du Fils de l'homme, il souffrira beaucoup et sera méprisé. » Et je vous dis qu'Élie est déjà venu, et lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu, selon qu'il était écrit de lui. Et lorsqu'il fut venu vers ses disciples, il vit une grande foule autour d'eux et les scribes qui discutaient avec eux. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas tout expliquer aux apôtres dès ici-bas, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre. On ne peut pas. Dieu sait que tant que nous sommes ici-bas sur la terre, nous ne pouvons pas comprendre la gloire extraordinaire du paradis. Donc, il dévoile une partie de cette gloire, mais il ne l'explique pas, parce qu'il ne peut pas l'expliquer à des gens qui sont encore ici-bas sur la terre. Ce n'est qu'au ciel que nous comprendrons ces choses-là. Donc les pères expliquent que les hommes se seraient scandalisés d'entendre raconter des choses si glorieuses de celui qu'ils devaient voir mourir sur une croix. Il ne convenait donc pas de leur faire connaître avant sa passion, la gloire qui devait la suivre. Après la résurrection contraire, ce mystère n'est plus rien d'incroyable pour eux. Donc il y a des choses que notre Seigneur Jésus-Christ ne va expliquer aux apôtres qu'après la résurrection. Et on ne sait pas tout dans les actes des apôtres. Et dans d'autres endroits, il est dit que pendant les 40 jours après Pâques, avant la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, jeudi de l'Ascension, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ a parlé avec ses disciples, avec ses apôtres, du royaume des cieux, des regnum Dei loquitur. Il parla avec eux du royaume des cieux. C'est à peu près tout ce qu'on a. Donc on ne sait pas exactement de quoi ils ont parlé. Mais notre Seigneur Jésus-Christ ne va pas encore tout expliquer à ce moment-là. Les apôtres ne vont comprendre plus pleinement tous ces mystères qu'après avoir reçu la Pentecôte. Et là, on est 50 jours après Pâques, 10 jours plus tard. Puisque entre la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ, le jour de l'Ascension, et la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, le jour de la fête de la Pentecôte, s'est passé encore 10 jours. Donc 40 plus 10, ça fait 50 jours. Et c'est simplement après la fête de la Pentecôte que les disciples vont comprendre un peu tout cela et vont pouvoir à ce moment-là partir à la conquête du monde pour prêcher et baptiser les gens. Donc notre Seigneur Jésus-Christ est apparu aussi entre Élie et Moïse pour bien montrer qu'il est venu pour remplir un ministère semblable à celui d'Élie et de Moïse. Et comme Élie, les Juifs l'ont maltraité. De même, le Fils de l'homme doit souffrir comme les Écritures l'ont prédit. Donc, si les hommes ont traité le bois sec en le jetant au feu, comment je veux dire, si les hommes ont traité le bois vert qui est représenté par notre Seigneur Jésus-Christ, qu'en sera-t-il du bois sec? Donc la passion de notre Seigneur Jésus-Christ représente ce bois vert. Notre Seigneur Jésus-Christ est symbolisé par le bois vert, parce que le bois vert ne peut pas brûler, justement. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, en tant que Dieu, ne peut pas être détruit, c'est ce que ça veut dire. Mais par contre, nous sommes du bois sec. Donc nous pouvons hélas brûler, nous pouvons hélas être corrompus, contrairement à notre Seigneur Jésus-Christ, qui étant Dieu, ne peut pas être corrompu. Alors nous avançons dans ce texte. Alors il y a page 21, un long passage ici des évangiles, je vais vous lire des versets 14 à 33. Donc, je suis la façon de découper l'évangile de saint Thomas d'Aquin. C'est comme ça qu'il le découpe dans son livre d'explication du mystère de l'exégèse. Versets 14 à 33 du chapitre 9 de saint Marc. Aussitôt, tout le peuple, voyant Jésus, fut saisi d'étonnement et de frayeur, et étant accouru, il le saluait. Et il leur demanda: « Pourquoi discutez-vous ensemble ?» Un homme de la foule, prenant la parole, dit: « Maître, je vous ai amené mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette à terre, et l'enfant écume, grince des dents et se dessèche. J'ai dit à vos disciples de le chasser, mais ils ne l'ont pu. Jésus leur répondit: « Ô génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous souffrirai-je? Amenez-le-moi. » Ils l'amenèrent, et aussitôt qu'il eut vu Jésus, l'esprit l'agita avec violence, et jeté à terre, ils se roulèrent en écumant. Et Jésus demanda au père de l'enfant: « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » Il répondit: « Depuis son enfance. » Et l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire guérir, pour le faire périr, pardon. Mais si vous pouvez quelque chose, secourez-nous, ayez pitié de nous. Jésus lui dit: si vous pouvez croire, tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt, le père de l'enfant s'écria, disant avec larmes: je crois, Seigneur, aidez mon incrédulité. Et Jésus, voyant courir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit: esprit sourd et muet, je te l'ordonne, sors de cet enfant et ne rentre plus chez lui. Alors l'esprit, poussant des cris, et l'agitant avec violence, sortit, et l'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient: il est mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le souleva, et il se leva. Et lorsque Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en secret: pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser? Il leur répondit: cette sorte de démon ne peut se chasser que par la prière et par le jeûne. Étant sorti de là, ils traversèrent la Galilée, et ils voulaient que personne ne le sût. Cependant, il instruisait ses disciples et leur disait: « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour après sa mort, il ressuscitera. » Mais ils ne comprenaient pas cette parole, et ils craignaient de l'interroger. Ils vinrent à Capharnaüm, et lorsqu'ils furent dans la maison, il leur demanda: « Sur quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté ensemble, pour savoir lequel d'entre eux était le plus grand. C'est dans ce passage que je viens de vous lire, donc du chapitre 9 de saint Marc, qu'il y a cette belle phrase: « Je crois, Seigneur, mais aidez mon incrédulité. » Ce doit être vraiment notre prière constante. « Seigneur, je vous aime, augmentez la charité. Seigneur, j'espère en vous, mais augmentez la vertu d'espérance en moi. Seigneur, je crois en vous, mais augmentez la vertu de foi en moi. » C'est aussi une belle leçon d'humiliation que notre Seigneur donne aux disciples. Ils n'ont pas pu, pourtant ils avaient reçu le don des miracles, hein. Mais là ils n'ont pas pu, délivrer cet esprit muet, délivrer ce jeune homme de cet démon qui était un esprit muet, qui l'empêchait de parler. C'est vrai que la plupart des pères disent que l'esprit muet, le démon muet, c'est le démon qui nous empêche d'accuser correctement nos péchés au confessionnal. Il y a les pires démons qui soient. le démon de l'aveuglement, le démon de la cécité spirituelle, celui qui nous empêche de voir les beautés de la création du bon Dieu, les beautés de Dieu. Le démon muet, c'est celui qui nous empêche d'accuser nos péchés correctement au confessionnal. Le démon de la surdité est le péché qui nous empêche d'écouter les conseils que nous donnent les prédicateurs, les saints prédicateurs, justement pour nous aider à nous rapprocher du bon Dieu. Alors voyons les explications données par les pères, nous en sommes à la page 22. Pourquoi en effet, enfant, a-t-il été dès ses plus tendres années l'objet de si cruels traitements de la part du démon s'il n'était point souillé de la tâche originelle, puisqu'il est certain qu'il n'était coupable d'aucun péché qui lui fût propre? N'oubliez pas que le péché originel atteint tous les hommes, y compris les bébés. Et tous les hommes, les fils d'hommes, naissent avec ce péché originel. Pourtant, ils sont responsables d'aucun péché. C'est pour cela qu'un enfant qui meurt simplement avec le péché originel ne va pas en enfer, il va au limbe. Précisément parce qu'il n'est pas responsable d'un péché personnel. Cependant, le péché originel empêche la montée au ciel. C'est pour ça qu'il faut baptiser les enfants le plus tôt possible. Victor d'Antioche dit que par ces mots « je crois », donc je répète la phrase, « je crois Seigneur, mais aidez mon incrédulité », par ce mot « je crois », il est attesté une foi réelle. Alors pourquoi ajoute-t-il « mais aidez mon incrédulité » C'est qu'il y a deux espèces de foi. La première qui n'est qu'une foi préparatoire, l'autre qui est une foi parfaite. Cet homme qui commençait seulement à croire suppliait le Sauveur de développer la foi dans son âme. Rappelez-vous un passage que nous avons déjà expliqué d'un aveugle qui est guéri en deux étapes par notre Seigneur Jésus-Christ. Au début, il est guéri à moitié, ses yeux sont en partie ouverts, il voit des hommes qui marchent comme des arbres. Et puis une deuxième fois, le bon Dieu va renouveler l'imposition de ses mains et là, il va guérir complètement le malade. Et bien, encore une fois, c'est le symbole de la vertu de foi, qui est une vertu qui doit être complète. Souvent, notre foi est imparfaite. On passe par étapes. Très, très souvent, on commence par une espèce de foi peu éclairée avant d'arriver à une foi imparfaite, puis une foi parfaite. Et cela va dépendre aussi du degré de charité qui va illuminer cette foi. Donc cet homme suppliait ainsi le Sauveur de développer la foi dans son âme, et c'est ce qu'il nous faut répéter après chaque communion. À chaque communion, il faut dire la même chose. Je crois, Seigneur, mais aidez, venez en aide à mon incrédulité, augmentez la foi en mon âme. Bon, par cet acte de puissance, puisque notre Seigneur Jésus-Christ va chasser ce démon muet, chose que les apôtres n'avaient pas pu faire, par cet acte de puissance, Jésus prouve qu'il est véritablement Dieu. Et en le touchant à la manière des hommes, il démontre la réalité de sa nature humaine. Toujours la double nature en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc une double volonté, une double intelligence. Il est vrai Dieu et vrai homme. Donc une intelligence et une volonté humaine. Une intelligence et une volonté divine. L'intelligence humaine, et surtout la volonté humaine, étant parfaitement soumise à l'intelligence et surtout à la volonté divine. Donc il n'y a pas d'opposition en notre Seigneur Jésus-Christ entre la volonté divine et la volonté humaine. La volonté humaine voulant toujours exactement tout ce que veut la volonté divine. Contrairement à nous, nous c'est le contraire, on se révolte très souvent malheureusement. On se révolte précisément parce que il y a un combat terrible entre notre volonté et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce combat est une conséquence du péché originel. Comme il n'y avait pas de péché originel chez notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y avait pas donc ce combat. Donc les pères font remarquer que un hérétique qui s'appelait Manès prétendait que Jésus ne s'était pas revêtu d'un corps véritable, mais le Sauveur, en rendant par son toucher la santé, la pureté, la lumière à tant de malades, a condamné son hérésie avant même qu'elle eût paru. Notre Seigneur Jésus-Christ a voulu justement montrer qu'il était homme. C'est pour ça qu'il a mangé, il a dormi dans sa vie publique, pour bien montrer qu'il était parfaitement homme. Il était homme en tout, comme nous, sauf le péché, bien sûr. Il faut donc que celui qui désire être guéri jeûne, ainsi que celui qui doit le guérir. C'est la phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette sorte de démon, verset 28, cette sorte de démon ne peut se chasser que par la prière et par le jeûne. La prière n'est parfaite que lorsqu'elle est accompagnée du jeûne. Donc c'est au verset 28 du chapitre 9. Lorsque celui qui prie ne se laisse pas appesantir par la nourriture, mais pratique la vertu de sobriété. Donc la prière et le jeûne doivent être unis. On ne jeûne pas pour des raisons matérielles, on jeûne pour des raisons surnaturelles, même si le jeûne a aussi d'excellentes conséquences physiques, beaucoup de bien au corps humain, jeûner, c'est certain. Mais le jeûne, justement, doit être associé à la prière. C'est pour ça que notre Seigneur Jésus-Christ précise les choses en disant que cette sorte de démon muet ne peut se chasser que par la prière et par le jeûne. Donc, dans le sens mystique, expliquons les choses avec Saint Bède le Vénérable, nous apprenons ici que c'est sur les lieux élevés que le Seigneur découvre à ses disciples les mystères de son royaume, et dans les régions inférieures qu'il reproche au peuple son incrédulité, qu'il chasse les esprits malins des corps qu'il fortifie, instruit et châtie, même les âmes encore charnelles et inintelligentes, et donne avec plus de liberté aux parfaits les enseignements de la vie éternelle. Donc il y a des choses qu'il va expliquer qu'aux apôtres et des choses qu'il va expliquer à tout le monde. On sent très bien, vous voyez, encore une fois, là on voit une chose qui est très courante, très très fréquente dans l'évangile, pardon. On voit l'inégalité entre toutes les âmes. Chaque âme est différente. Notre Seigneur ne va pas donner la même chose à toutes les âmes. Au commun du peuple, je dirais, il va expliquer certaines choses, mais à ses apôtres et à ses disciples, il va expliquer beaucoup de choses. Il va expliquer certaines choses aux disciples et aux apôtres, et certaines choses qu'il ne va expliquer qu'aux apôtres seulement. Donc il y a un degré, une montée dans la vie spirituelle. On passe ainsi de la vie proche de la terre, je dirais, qu'on appelle la vie purgative, à la vie illuminative, et enfin à la vie unitive. La vie unitive, c'est déjà... Quand quelqu'un, un saint, arrive à la vie unitive, à la vie mystique ici-bas sur la terre, on peut dire qu'il a déjà un pied dans le paradis. Alors, celui qui est délivré de la puissance de l'esprit impur paraît comme mort. C'est au verset 25, l'esprit poussant des cris, l'agitant avec violence, sortit, l'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient, il est mort. C'est-à-dire, disent les pères, que le chrétien qui a pu assujettir tous les désirs de la terre voit s'étendre en lui la vie des habitudes charnelles. Aux yeux du monde, il paraît mort, et un grand nombre le tiennent réellement pour mort, car dans l'ignorance où ils sont de la vie spirituelle, ils regardent comme tout à fait éteint la vie qui ne court plus à la recherche des biens sensuels. C'est pour ça que les catholiques aujourd'hui, dans le monde moderne, passent pour des fous complets. On est un peu comme des martiens sur la terre. Il faut voir la tête parfois de certaines personnes dans un supermarché quand ils me voient en soutane, déambuler dans le supermarché, faire mes courses. Bon, il y a des gens qui vont venir vers nous de façon très, très, très charitable, très gentille, pour nous manifester leur plaisir de voir un prêtre en soutane, mais beaucoup ne comprennent pas, cherchent même pas à comprendre. D'ailleurs, ils font un petit signe avec le doigt sur la tempe en disant « celui-là, il est fou ». Vous voyez, parce que pour eux, on est fou, parce que justement, on s'est coupé du monde et ils le sentent très bien. Hein. Donc, il y a deux mondes différents, le monde qui est englué sur les choses matérielles et le monde qui regarde les choses du ciel. On est dans deux plans, sur deux mondes différents. On est même plus que sur deux mondes différents. Nous sommes sur deux planètes différentes. Nous, on est sur la Terre pour préparer le ciel. Eux, ils sont sur la Terre pour y rester le plus longtemps possible. Vous voyez, c'est toute la différence. Mais c'est un petit peu la même chose, si vous voulez, c'est un détail qui est important. C'est un peu la même chose entre l'Église de Vatican II et l'Église catholique. Nous ne sommes pas simplement deux religions différentes, nous sommes sur deux planètes différentes. la religion Vatican II adore l'homme, la religion catholique adore Dieu lui-même. La religion de Vatican II, centre tout sur l'homme, la religion de notre Seigneur Jésus-Christ, la religion catholique centre tout au contraire sur Dieu, sur la divinité. Donc, c'est pour ça qu'il y a des choses qu'on ne peut même pas expliquer à certaines personnes, ils sont incapables de comprendre. Parce que justement, on est sur deux planètes différentes. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous a demandé de ne pas jeter les perles aux pourceaux. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer tout de suite, il faut attendre. Attendre, alors parfois on peut arriver à expliquer certaines choses, parfois on se rend compte que c'est même pas la peine d'expliquer, il faut confier tout ça entre les mains du bon Dieu. Moi ça m'arrive très souvent en apostolat, parfois d'avoir des gens devant moi qui manifestement sont pas du tout au niveau, ne cherchent pas vraiment le bon Dieu. Ben, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On passe, on prie pour eux, on attend une autre opportunité, vous voyez. Et ce n'est pas en tirant sur la fleur, comme disait Saint François de Sales, ce n'est pas en tirant sur la fleur que vous allez la faire pousser plus vite. Hein. Donc malheureusement, les gens qui sont autour de nous, on voit très bien que les jeunes modernes d'aujourd'hui, pour eux, on est vraiment des extraterrestres. Vous voyez, on est des extraterrestres au Moyen-Âge ou même plus tard. Les gens connaissaient tous au moins de réputation l'Église catholique. Ils savaient tous ce que c'était que l'Église catholique, ils savaient tous ce que c'était qu'un prêtre. Mais dans le monde moderne, ils ne savent même plus ce que c'est qu'un prêtre. C'est terrible, vous voyez. Il n'y a plus de référence du tout pour eux. J'ai eu la même impression, je vous l'ai peut-être déjà dit dans d'autres conférences, j'ai eu la même impression quand j'étais au Népal. Je suis allé au Népal quelques dizaines de jours. Il y a longtemps, pour faire un trek en fait. J'avais pris quelques jours de vacances en revenant d'Australie. Je m'étais arrêté au Népal pour faire un trek. On est monté à 5000 mètres dans la montagne, c'était très beau. Et j'étais en soutane dans les rues de Katmandou. Et je voyais très bien, il n'y avait pas d'agressivité du tout de la part des Népalais à mon égard, pas du tout. Mais ils ne comprenaient absolument pas ce que j'étais. C'était cette soutane qu'ils voyaient pour la plupart d'entre eux pour la première fois de leur vie. Il n'y a pas une seule église catholique dans ma connaissance au Népal, donc ils ne savent pas ce que c'est qu'un prêtre en soutane, et donc ils ne savaient pas du tout à quoi correspondait cette soutane. Et parfois, il y en a certains qui s'adressaient à moi, je me rappelle un cas où j'ai eu un jeune homme qui est venu me voir, il m'a regardé, il a vu que j'étais un étranger bien sûr, et il m'a dit, elle est rudement chouette votre robe japonaise. Je dis, mais ce n'est pas une robe japonaise, ça s'appelle une soutane. Et j'ai essayé de lui expliquer ce qu'était un prêtre, il ne comprenait pas. J'ai essayé de lui expliquer que le prêtre, c'était le ministre de Dieu, le ministre de l'Église catholique, il ne comprenait pas. Et c'est uniquement quand j'ai sorti mon chapelet, il a vu la croix du chapelet, et à ce moment-là, il s'est exclamé, « Ah, vous êtes un chrétien !» Je dis, « Oui, c'est ça. » Je dis, « Le prêtre, c'est d'une certaine façon un peu un ministre des chrétiens, un ministre de Dieu pour les chrétiens. » Il ne comprenait pas, il ne pouvait pas comprendre. Mais la croix faisait un peu exprimer quelque chose. Vous voyez. Et c'est terrible d'être dans un monde, en France c'est comme ça, maintenant on est dans un monde de païens. J'ai eu cette même impression aussi en Thaïlande. Je suis allé deux, trois fois en Thaïlande, et à Bangkok entre autres, c'est ce qui m'a frappé le plus, c'est d'être dans des milieux dans lesquels il n'y a plus aucun signe de christianisme. Vous voyez là où j'habite ici, à Padiès, près d'Albi, c'est une région qui autrefois était très chrétienne. Aujourd'hui, c'est une région complètement paganisée. Mais autrefois, était très chrétienne, mais il y a encore des signes de cette chrétienté partout. Il y a une croix, par exemple, pratiquement à chaque petit croisement. Deux croisements, deux chemins vicinaux, un petit chemin vicinal qui donne sur une petite route départementale près de Padiès, vous avez une croix, systématiquement. Et en plus, elles sont entretenues. Vous voyez, donc ces croix nous rappellent que cette zone a été une zone chrétienne autrefois. Même si ça représente plus grand chose pour les gens, la croix est toujours là. Vous voyez, alors que, au contraire, dans certains pays, je donnais l'exemple du Népal ou de la Thaïlande, du Siam, donc dans ces pays-là, c'est pas une déchristianisation, il n'y a jamais eu vraiment de christianisation. Et donc, la religion catholique ne représente plus rien. Il y a tout un travail de sanctification à faire. Dans certains milieux, la seule chose qu'on peut faire, c'est vivre comme un chrétien. Vivre comme un chrétien, j'ai connu des jeunes qui, dans les milieux complètement délétères, superficiels et païens, universitaires entre autres, c'est tout ce qu'ils faisaient. Ils vivaient comme des chrétiens au milieu de milliers d'étudiants qui vivaient comme des porcs, littéralement. Donc c'était littéralement une petite rose qui se promenait, un chrétien à l'université en France, c'était comme une petite rose qui se promenait au milieu d'un champ de porcs, un champ de cochons. C'était vraiment littéralement ça. Et bien simplement par leur tenue, par leur comportement, par le fait qu'ils se tenaient correctement, qu'ils ne fréquentaient pas des lieux infâmes, parce qu'ils étaient habillés correctement, ils avaient une certaine dignité, une certaine classe, et bien les gens voyaient un peu les différences, mais on est un petit peu dans la situation aujourd'hui dans laquelle étaient les premiers chrétiens pendant les grandes persécutions. Voyez, on est à peu près au même niveau moral que la société paganisée de Rome au 2e, 3e, début du 4e siècle. Je pense même que le degré de corruption qui est entre autres en France aujourd'hui est supérieur au degré de corruption qui devait exister, par exemple à Rome, dans les grandes villes antiques, au 1er, au 2e siècle, au 3e siècle. Parce qu'à l'époque, il y avait encore un certain respect de l'autorité qui n'y a plus aujourd'hui. Il y avait un respect du pouvoir du Père, ce qui a complètement disparu aujourd'hui. Et alors, le démoniaque, disent les pères, donc ce jeune homme qui a un esprit muet, en fait, il est possédé. Hein. C'est pour ça qu'on l'appelle un démoniaque. Ce démoniaque est encore l'image de l'âme qui, souillée dès son origine de la tâche du péché originel, n'en peut être purifiée que par la foi en Jésus-Christ, par sa grâce toute puissante. Le feu, donc quand il est jeté dans le feu, ses parents expliquent que dans certains cas, l'esprit, sur verset 21, l'esprit l'a souvent jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Si vous pouvez quelque chose, secourez-nous, ayez pitié de nous. Donc ce feu représente le bouillonnement de la colère et l'eau, les voluptés charnelles dont le propre est de miner les forces de l'âme par les plaisirs du corps. Donc ce démon muet, si vous voulez, faisait rentrer l'esprit du monde dans l'âme de ce pauvre enfant. Ce n'est pas à l'enfant qui souffre, mais au démon qui le tourmente que Jésus adresse ses menaces. Il veut nous apprendre que celui qui désire corriger un pécheur doit aimer, consoler l'homme et réserver pour le péché seul qu'il doit détruire ses réprimandes, sa haine et ses invectives. Donc c'est la formule de Saint Augustin, détester le péché, aimer le pécheur. Voyez, mais bien séparer les deux choses. Il faut aimer les pécheurs, mais il faut détester le péché. Et malheur à celui qui, sous prétexte qu'il veut aimer les pécheurs, va aussi considérer le péché comme quelque chose de normal. Non. Être plein de miséricorde, plein de mansuétude pour le pécheur qui cherche Dieu, alors d'accord, mais il faut avoir de la haine pour le péché. Celui qui aime le Seigneur, Quidigite dominum audite malum, que celui qui aime le Seigneur haïsse le mal, audite malum, haïr le mal. Donc s'il n'y a pas cette haine du mal, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est ça le drame aujourd'hui, c'est qu'on ne fait plus cette distinction entre le péché et le pécheur. Dans l'Église de Vatican II, c'est clair et net, ils ne font plus du tout cette distinction. Et à force de parler de l'acceptation du pécheur, eh bien, ils finissent par accepter le péché. Vous avez un fils qui vit dans le concubinage. Est-ce que vous devez toujours aimer votre fils? Bien sûr. Vous devez l'aimer tendrement. Il est toujours votre fils et vous devez aimer votre fils. Est-ce que ça veut dire pour autant qu'à cause de cet amour que vous devez à votre fils, vous devez accepter sa situation de concubinage? Bien sûr que non. Donc aimer le fils, oui, mais haïr le péché de concubinage. Donc si votre fils vient avec sa concubine voir vous visiter, eh bien, il n'est pas question de les accepter dans la maison, les mettre dans la même chambre pour la nuit, même s'ils vivent ensemble depuis 20 ans. Parce qu'à ce moment-là, vous coopérez au péché. Oui. Alors vous pouvez, dans certains cas, l'accepter chez vous pour un repas, pour un café, pour essayer de ne pas tout couper. Notre Seigneur Jésus-Christ nous demande de ne pas éteindre la mèche qui fume encore. Et donc il y a un devoir pour des parents d'essayer de conserver le contact quand même avec ses enfants, même si ces derniers vivent dans le péché, mais jamais accepter le péché en tant que tel. Donc si votre fils vient à la maison avec sa concubine, bon bien, vous pouvez sans doute les accepter pour quelques heures pour parler un petit peu avec eux. Si vous avez un espoir de ben, peut-être qu'un jour une petite faille qui se présente et que votre parole va passer par la faille pour toucher ses cœurs et les aider à remonter vers le bon Dieu, mais vous ne pouvez pas accepter le péché. Hein. Attention, bien faire cette distinction. J'ai vu des conversions extraordinaires. J'en ai vu de mes propres yeux et pas qu'une seule fois, plusieurs fois. Donc il ne faut pas se décourager. J'ai vu des parents qui ont prié comme ça pendant des années, des années, des années, avant de voir enfin un enfant, Dieu merci, revenir vers le bon Dieu. Et c'est précisément en refusant le péché que vous allez pouvoir travailler sur l'intelligence des pécheurs. Mais si vous acceptez le péché, alors à ce moment-là, les pécheurs ne reviendront jamais vers le bon Dieu. Vous voyez ? Et j'ai connu des cas de conversion extraordinaires justement par des jeunes catholiques qui ont eu le courage de dire les choses quand il fallait les dire. Quand il fallait les dire. Vous voyez ? Certaines remarques qui doivent être faites, alors c'est là où il faut sentir quelles sont les remarques qu'on peut faire, comment les faire, dans quelles circonstances les faire, est-ce qu'il faut dire les choses maintenant, est-ce qu'il faut les dire avec tel mot ou tel autre mot, avec tel ton de voix ou tel autre ton de voix, et essayer de faire du bien aux âmes. Mais il faut que les gens puissent voir Dieu derrière ce que vous dites, et donc pour cela, il faut que cette distinction soit faite entre le péché et le pécheur. Et c'est pour ça que les pères expliquent bien que c'est pas à l'enfant lui-même que notre Seigneur Jésus-Christ va donner l'ordre, mais au démon qui tourmente l'enfant. Et Jésus adresse donc ses menaces au démon et pas à l'enfant. En enseignant à ses apôtres le secret de chasser les démons les plus pernicieux, le Seigneur nous présente à tous une règle de vie. Il nous apprend que nous triompherons des plus grandes épreuves, qu'elles aient pour auteur les démons ou les hommes, par le jeûne ou par la prière, et que le feu de la colère de Dieu, tout prêt à châtier nos crimes, cédera lui-même à l'efficacité de ce remède tout puissant. Hein ? Rappelez-vous, je l'ai souvent expliqué, c'est ces trois grandes pénitences du Moyen-Âge et des premiers siècles, le jeûne, l'aumône, la prière. Le jeûne contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux, la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Et Dieu sait si ces trois pénitences, ces trois actes de mortification sont importants aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à jeûner. Rappelez-vous que j'enregistre ce cours pour le mercredi décembre, en fait, pour le 26. Aujourd'hui, on est le 13 février. Mais j'enregistre pour le 26 février, mercredi 26. Et mercredi 26, ce sera le jour du mercredi décembre, donc le premier jour de carême. Donc rappelez-vous les lois de l'Église concernant le jeûne pendant le carême. Un catholique se doit de, tous les catholiques entre 21 et 60 ans se doivent de jeûner tous les jours de carême, sauf les dimanches. On ne jeûne pas le dimanche. Donc jeûne tous les jours de carême, c'est-à-dire un repas par jour. Un petit frustulum est accepté pour le matin ou le soir. Bon, il peut y avoir certaines dérogations accordées pour des personnes qui sont malades ou des personnes, des femmes enceintes qui ont besoin de manger plus dans la journée ou des personnes qui font tout simplement des travaux physiques très importants. Il peut y avoir des dispenses, mais il faut demander les dispenses qui s'imposent. Mais en tout cas, jeûner avec courage. Le jeûne est bon pour purifier l'âme. Le jeûne est bon pour renforcer l'âme, surtout contre les tentations d'impureté. Donc par le jeûne, il faut entendre en général l'abstinence, non seulement d'aliments, mais de toute jouissance sensuelle et même l'exemption de toute passion coupable. Ce n'est pas simplement le jeûne par rapport à la nourriture, c'est le jeûne, si vous voulez, de tout ce qui est un obstacle au travail de la grâce dans nos âmes. C'est pareil pour l'aumône. le monde, il ne faut pas prendre ça exclusivement comme le fait de donner de l'argent à un pauvre. Le monde, c'est aussi un acte de charité par rapport à celui qui souffre. Ce mot est resté dans ce sens, dans une certaine expression française que j'aime beaucoup. Quand, par exemple, vous dites à quelqu'un, vous conseillez à quelqu'un de faire l'aumône d'un sourire à telle personne qui souffre. Vous voyez ? L'aumône d'un sourire, ça veut bien dire ce que ça veut dire. L'aumône, c'est pas simplement donner des espèces trébuchantes, de l'argent, mais aussi, ça peut être un simple sourire. Et c'est parfois bien plus difficile de donner un sourire, un vrai sourire de charité chrétienne, que de donner de l'argent. Donc, de même, pour la prière, prise dans sa généralité, ne consiste pas simplement dans les paroles dont nous faisons usage pour implorer la bonté divine, mais encore dans les actes inspirés par la foi et la piété, pour rendre hommage à notre Créateur, au sens de saint Paul quand il dit « prier sans cesse ». Voyez ? Donc, essayez de voir en ce début de carême, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ces trois domaines, le jeûne, la prière, l'aumône. Le jeûne, la prière, l'aumône. C'est pour cela qu'avant, c'était la coutume pour les catholiques de donner ce qu'on appelait le denier du culte pendant le temps du carême, justement à cause de cette aumône qui est demandée pendant le temps du carême. Je profite puisque j'en parle pour remercier tous mes bienfaiteurs. Je les remercie sans doute pas assez, mais je veux remercier ici tous les bienfaiteurs qui m'aident, les connus et les inconnus. Très frappé parfois de recevoir parfois des dons de personnes dont je ne connais pas les noms. Il y a une enveloppe qui arrive avec un billet 20 euros plié dans un papier. Il n'y a pas de nom. Je ne sais pas qui c'est. Il y a mon nom sur l'adresse, sur l'enveloppe, mais il n'y a pas de nom d'expéditeur. Donc je ne peux même pas remercier. Sachez que tous les jours, j'offre mon rosaire, les 15 mystères du rosaire, quotidiennement, pour tous mes bienfaiteurs. C'est grâce à eux que je peux tout simplement payer les factures. J'essaie de vivre simplement, mais après tu dois manger comme tout le monde. Il a ses factures à payer comme tout le monde. Alors que soyez remerciés pour tous ceux qui m'aident. Et ceux qui ne peuvent pas m'aider en matière financière, qui m'aident au moins pour leur prière, leur pénitence pour moi. En tout cas, merci à tous ces bienfaiteurs. Donc, ici une citation de saint Jérôme. La folie, dit-il, qui a pour objet les jouissances de la chair est guérie par le jeûne. De même aussi la paresse est chassée par la prière. Donc à chaque plaie, il faut appliquer le remède convenable, dit le saint Jérôme. Ce n'est point par un remède appliqué sur le pied que l'on guérit l'œil malade. Ainsi donc employer le jeûne contre les passions du corps et la prière contre les maladies de l'âme. Donc le jeûne pour vaincre les tentations d'impureté, la prière pour vaincre les tentations d'orgueil. La prière est nécessaire. Celui qui prie se sauve, celui qui ne prie pas se damne. Personne ne peut se sauver sans prière. C'est absolument, absolument impossible. Mais on ne peut pas non plus lutter contre les tentations d'impureté sans une certaine... certaines pénitences physiques. Nous avions pour le démange de la Septuagésime un texte magnifique de saint Paul sur ce sujet. Saint Paul aux Corinthiens, 1 aux Corinthiens, chapitre 9. Voilà ce qu'il nous dit. Je combats, et non qu'en frappant l'air, mais je châtie mon corps et je le réduis en servitude, de peur qu'après avoir prêché aux autres, je ne sois moi-même réprouvé. Car je ne veux pas que vous ignoriez, mes frères, que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient au rocher spirituel qui les suivait, ce rocher était le Christ. Cependant, la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Donc saint Paul explique bien que celui qui ne veut pas faire pénitence, qui ne veut pas châtier son corps et le réduire en servitude, eh bien, ne peut pas être agréable à Dieu. Rappelez-vous saint François d'Assise qui appelait le corps son frère âne, le frère âne. Faire avancer un âne, il paraît une baguette et puis taper sur la croupe de l'âne, sinon on n'avance pas. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc, employons le jeûne contre les passions du corps et toutes les tentations d'impureté, la prière contre l'orgueil. Hein. Au premier dimanche de carême, donc il y a également les trois tentations de notre Seigneur. Et les pères expliquent que les trois tentations de notre Seigneur, c'est que le démon a touché physiquement notre Seigneur. Notre Seigneur s'est laissé toucher physiquement par le démon. C'est ahurissant, mais c'est comme ça. Et le démon va d'abord lui proposer de changer des pierres en pain, puis va le monter au sommet du temple, puis au sommet de la montagne. Et ces trois tentations, nous disent les pères, représentent les trois servitudes des concupiscences. La concupiscence des yeux, ce désir de tout avoir, de tout posséder. La concupiscence de la chair, l'attraction des plaisirs sensuels et sexuels défendus. Et puis l'orgueil. Et donc notre Seigneur Jésus-Christ a vaincu ces trois tentations du démon, arrière Satan. Pourquoi ? Pour bien nous montrer justement que par la prière, par le jeûne et par l'aumône, eh bien on peut vaincre ces tentations du démon. Et sous-entendu, mais si on ne prend pas les bons moyens, s'il n'y a pas de prière, s'il n'y a pas de jeûne et s'il n'y a pas d'aumône, eh bien, vous savez, ce sera difficile, hein, difficile de vaincre ces tentations. Saint Marc, chapitre 9, versets 34 à 37. S'étant assis, Jésus appela les douze et leur dit : si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis prenant un enfant, il le plaça au milieu d'eux et après l'avoir embrassé, il leur dit : quiconque reçoit en mon nom un enfant, comme celui-ci me reçoit. Et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Alors Jean, prenant la parole, lui dit : Maître, nous avons vu un homme qui chasse les démons en votre nom et nous ne suit pas. Et Donc il y a une faute là dans mon texte. Attendez. Oui, il y a une faute là dans le texte que je suis. C'est un texte de Filion là. C'est pour nous en l'avons empêché, c'est nous l'en avons empêché. Donc une faute que je corrigerai en bas de la page 22. Donc voyons les explications des pères en page 23. Je vais terminer ces quelques lignes-là. Saint Bède le Vénérable explique donc que le Sauveur recommande à ceux qui aspirent aux dignités de faire à ses pauvres un digne accueil pour l'honneur, par honneur pour lui-même. C'est-à-dire voir Dieu qui brille dans l'âme des gens qui sont autour de nous. Surtout dans l'âme de ceux qui sont baptisés. Et c'est terrible, encore une fois, parfois d'être dans des pays où les gens autour de nous ne sont même plus baptisés. D'ailleurs, on le sent de plus en plus en France. En France, ça commence à se sentir. En principe, je pense qu'il y a encore peut-être, je sais pas, un bon tiers des Français en France qui doivent encore être baptisés. Mais quel genre de baptême ils ont reçu ? Ils ont en tout cas jamais reçu les exorcismes, très peu. Puisque dans la nouvelle église, il n'y a plus d'exorcisme pour le baptême. Est-ce que les ministres qui ont baptisé ces Français avaient la foi ? Donc pour qu'un baptême soit valide, il faut que le ministre du baptême ait l'intention de faire ce que veut faire l'Église catholique. Les prêtres modernes, manifestement, ils n'ont plus cette intention puisqu'ils ne croient plus au péché originel. Mais c'est terrible de vivre entouré de païens constamment. C'est une épreuve que le bon Dieu nous demande. Donc Le Sauveur, recommande d'avoir cette candeur de l'enfance, d'être simple, sans fierté, charitable, sans envie, affectueux, sans colère. Donc le baiser qu'il donne à cet enfant nous apprend que c'est au petit qu'il réserve son affection et ses embrasements. Ici, on voit l'importance de l'innocence des enfants. Ceci nous aide à comprendre pourquoi, on voit très bien le gouvernement actuel en France, leur désir de corrompre les enfants dès la jeunesse. Avec cette volonté du gouvernement, par exemple, de commencer maintenant à rendre l'école obligatoire dès l'âge de 3 ans, je crois. C'est dans les projets, je ne sais pas si c'est déjà fait. Eh bien, on voit très bien que le gouvernement veut posséder l'âme de ses enfants dès l'âge de 3 ans, comme ils le disent eux-mêmes. C'est Belkacem, je crois qu'il avait dit, ou le ministre Poisson, je ne sais plus l'un des deux. un des ministres de l'Éducation nationale de notre glorieuse République, qui l'avait dit, les enfants n'appartiennent pas aux parents, les enfants appartiennent à la République, tu parles. Les enfants, ils appartiennent à leur créateur. Et leur créateur, c'est le bon Dieu. Voilà, donc je vais arrêter là pour ce cours. Si Dieu veut, donc je reprendrai la semaine suivante pour terminer le chapitre 9. Prochaine fois, je terminerai le chapitre 9 et commencer le chapitre 10 de Saint Marc. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.